suis assez dubitatif pour ne rien vous cacher. On avance de 2 heures un couvre-feu. Vraiment, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que l'on se trompe de réponse.
Olivier Véran l'a annoncé hier soir, pas de reconfinement, mais un couvre-feu avancé dans les secteurs les plus touchés par le Covid. Ça concerne notamment le Grand Est où certains élus auraient voulu aller plus loin. Face au risque de troisième vague, la campagne de vaccination se poursuit doucement dans les établissements pour personnes âgées où il faut parfois convaincre les indécis. Lui, il est déjà vacciné. Joe Biden, futur président des États-Unis, dénonce les retards du plan Trump pour distribuer les vaccins. Dans ce journal, les abattages préventifs de volailles pour éviter la propagation de la grippe aviaire dans le sud-ouest. Et puis, la disparition de Pierre Cardin, grand nom de l'histoire de la mode. Un homme parti de rien qui voulait à tout prix réussir.
2020 restera dans l'histoire comme l'année la plus chaude dans l'histoire de notre pays. L'homme qui regarde la mer pour mieux comprendre la terre, Christian Bûcher, est l'invité de notre tête-à-tête tout à l'heure à 7h40.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, un confinement généralisé, ni un confinement local.
D'accord.
En revanche, nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20h, démarrera à 18h dans l'ensemble des territoires dans lesquels le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale.
Les mots d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, hier soir sur France 2. Donc pas de troisième reconfinement pour l'instant. Un couvre-feu des 18h qui devrait concerner une vingtaine de départements de l'Est, depuis les Ardennes jusqu'aux Alpes-Maritimes, en passant par l'Allier et le Bas-Rhin.
Une mesure qui va entrer en vigueur dès samedi. Il y aura des concertations avec les élus, les préfets, les ARS, agences régionales de santé. Mais on peut d'ores et déjà dire que cette mesure ne fait pas l'unanimité, par exemple en Meurthe-et-Moselle. Jeanne Bergaoui.
Je suis assez dubitatif pour ne rien vous cacher. On entend les scientifiques qui s'affolent sur, on va dire, la croissance de la pandémie. Et d'un autre côté, on avance de 2 heures un couvre-feu. Vraiment, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que l'on se trompe de réponse. Attendre le 2 janvier, on sait que les fêtes se seront passées et ce sont les fêtes qui vont surtout expliquer la montée de la pandémie. C'est vrai que de demander un reconfinement, ce n'est jamais simple, mais voilà, c'est faire preuve de responsabilité aussi que de proposer des mesures qui ne sont pas forcément populaires. J'aurais aimé un reconfinement plus rapide, localisé sur notre région Grand Est et sur les régions, pourquoi pas, aussi qui sont fortement impactées, mais qui nous permettent là, voilà, pendant 15 jours, on ne bouge plus et on coupe la chaîne de contamination.
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle avec Jeanne Bergaoui. 20 départements concernés donc par le couvre-feu à 18h pour les lieux culturels qui espéraient une réouverture au 7 janvier. C'est a priori la douche froide. Olivier Véran a estimé difficilement concevable de lever les contraintes à cette date.
De son côté, le conseil scientifique lui craint une reprise incontrôlée de l'épidémie après les fêtes. Et pour tenter d'endiguer une troisième vague, la campagne de vaccination des personnes les plus fragiles se poursuit.
Oui, à un rythme particulièrement lent, 138 personnes vaccinées en 3 jours, alors que l'Allemagne en est à plus de 40 000. On n'est pas parti pour un 100 mètres, mais pour un marathon, c'est ce qu'on dit au ministère de la Santé. Dans les EHPAD, les résidents ou leurs familles sont systématiquement consultés avant l'injection. Victor Delande s'est rendu dans un établissement de Sartrouville, dans les Yvelines, où il a pu assister aux discussions entre résidents et médecins.
Madeleine, 94 ans, sort de sa chambre. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le médecin coordonnateur de l'EHPAD pour une consultation pré-vaccinale.
Bonjour docteur.
Bonjour Madame Bonnet.
Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous expliquer en fait l'intérêt de la vaccination.
Un peu indécise, il y a encore quelques semaines, Madeleine ne se pose désormais plus de questions. Elle dit oui au vaccin, surtout pour protéger ce qu'elle aime.
Si c'est pour protéger les autres aussi, parce que c'est surtout ça l'intérêt, c'est pas de me protéger moi. Qu'est-ce que les qui m'arrive ici, je suis enfermée.
Après une discussion sur la balance entre les bénéfices et les risques du vaccin, Madeleine se montre sereine.
Ce qu'on souhaite, c'est que vous n'ayez pas une forme grave et qu'on ne soit pas obligé de vous hospitaliser.
Oui. Ah bah c'est très bien. Suffisamment de, les hôpitaux n'ont pas besoin de ma présence.
Pour donner son consentement, elle a dû d'abord remplir un formulaire début décembre, en parler ensuite avec son médecin traitant, puis avec le médecin coordonnateur. Un long parcours nécessaire pour Yann Reboulot, président du groupe Philogéris.
Le consentement, c'est pas une photo instantanée, c'est-à-dire le consentement, c'est une appréciation que l'on porte. Les gens décident de se vacciner parce qu'ils ont réfléchi avant de se faire vacciner.
Sur les 36 résidents de cette EHPAD, 13 seulement ont accepté de se faire vacciner. Ils recevront la première injection demain après-midi.
Et 200 maires signent un texte aujourd'hui dans le Figaro pour s'engager à se faire vacciner, pour donner l'exemple. Un sondage Ipsos publié hier montre que nous sommes en France champion du monde des réfractaires avec seulement 4 personnes sur 10 qui veulent se faire vacciner.
Aux États-Unis, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui a été vaccinée devant les caméras hier à Washington. L'occasion pour elle d'appeler tous les Américains à en faire autant.
Oui, ils sont plus de 2 millions à avoir reçu une première injection et pourtant l'administration Trump avait promis 20 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. Joe Biden, qui prendra ses fonctions fin janvier, ne ménage pas ses critiques.
Le plan de l'administration Trump pour la distribution des vaccins est très en retard. Nous sommes reconnaissants envers les entreprises, les médecins, les scientifiques, les chercheurs, les participants aux essais cliniques et l'opération Warp Speed pour avoir développé rapidement les vaccins. Mais comme je le redoutais et comme je l'ai dit depuis longtemps, les efforts pour distribuer et administrer le vaccin ne progressent pas comme ils le devraient.
Joe Biden, le président élu, et pour la première fois aux États-Unis, un parlementaire est mort du Covid, un élu de Louisiane qui avait 41 ans et devait prêter serment dimanche.
Comment se passe d'ailleurs la campagne de vaccination chez nos voisins européens? Ce sera le dossier tout à l'heure dans le journal de 8h. Europe 1, il est 7h, bientôt 7 minutes, et on va prendre Hélène la direction du sud-ouest où la grippe aviaire se propage dangereusement dans les élevages de canard. Résultat, la zone d'abattage préventif est désormais élargie à une centaine de communes.
Et oui, notamment dans les Landes, le principal producteur de foie gras. En clair, quand un foyer de contamination est détecté, les volailles sont abattues dans toutes les exploitations dans un rayon de 3 km. C'est ce qui vient d'arriver à un éleveur landais que Jean-Jacques Herry est allé rencontrer.
Lorsqu'Éric Dumas ouvre la porte de son bâtiment, on est frappé par le vide et le silence. Seule la litière de paille sur le sol rappelle qu'il y a encore quelques heures, on élevait ici des palmipèdes.
Jusqu'à encore hier soir, 4000 canards. Hein.
4000 canards âgés de 8 semaines qu'un camion est venu chercher dans la nuit pour les emmener à l'abattoir. Une ferme proche était infectée et dans le doute, les animaux d'Éric représentaient un potentiel foyer pour une maladie très transmissible.
C'est avant tout un crève-cœur parce que c'est du gâchis par rapport à du travail accompli. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à créer un vide sanitaire et qu'il n'y ait plus de présence d'animaux pour éliminer ce virus.
Reste que 4000 canards qui partent, c'est 2 tonnes de foie gras et 4 tonnes de magret qui disparaissent. Et cela arrive en plus après une année très dure pour les producteurs, rappelle l'éleveur, également vice-président de l'interprofession du foie gras.
La partie restauration qui est toujours fermée représente quand même 40% de nos débouchés. Ce sera très compliqué à la fois pour les agriculteurs mais aussi pour les emplois que ça génère. On ne pourra pas laisser une filière telle qu'elle est sans aide directe de la part de l'État.
Dès aujourd'hui, Éric Dumas commencera la désinfection de ses bâtiments en espérant pouvoir recevoir de nouveaux canetons. Ce ne sera pas avant quelques mois. Hors sérieux, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
C'est un nom et un logo qui étaient connus dans le monde entier. Pierre Cardin s'est éteint hier à l'âge de 98 ans.
Né Pietro Cardini en Italie, il était arrivé très jeune en France où il avait commencé à travailler chez un tailleur à Vichy, créateur visionnaire. Il avait plus de 800 licences, cravates, briquets, vaisselle, réveil matin, cigarettes ou même eau minérale. Des licences qui lui auraient rapporté 35 millions d'euros chaque année. Pierre Cardin, un homme qui a toujours voulu réussir, il le disait sur Europe 1 au micro d'Isabelle Morizet.
Je ne suis pas orgueilleux. J'ai eu beaucoup d'ambition dès le début de ma carrière. Je pense que si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de but. Et moi j'en avais, c'était de réussir. Je voulais être acteur au début. Donc ça a tellement bien marché pour moi dans la mode que je ne pouvais pas quitter l'ombre.
Vous avez presque tout créé dans votre vie.
J'ai tout fait ce que j'ai voulu. Par le travail. J'ai toujours travaillé. Moi, tout le monde est fermé en vacances, en voyage. Moi, je suis là le dimanche parce que je suis tranquille. Si on appelle ça du travail ou si on appelle ça des vacances, moi, c'est pareil.
Pierre Cardin sur Europe 1 en mai 2018. Place maintenant à nos idées culture du jour, comme toute la semaine dans ce journal. On va hisser la grand voile avec vous, Nicolas Caro. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous conseillez des livres pour nous évader, tous consacrés à la mer, à l'océan et à la voile.
Mais oui, la mer entretient depuis toujours des liens assez forts avec la littérature, avec des récits de marins notamment. On peut citer Kersauzon, Isabelle Autissier, des écrivains, des poètes autant que des marins, ou Fabrice Amédéo, plus récemment ancien journaliste au Figaro. Il a tout quitté en 2015 pour se consacrer à sa passion de la mer. Il est devenu skipper professionnel. Il a d'ailleurs pris le départ du Vendée Globe cette année, vous savez, et il a dû abandonner à cause d'une panne. Il raconte son parcours et son rapport avec la mer dans « Loin de la terre surgit le monde » chez Plon. Pour Fabrice Amédéo, la mer demande à être racontée.
J'ai toujours trouvé que la course au large avait une dimension d'aventure et donc une dimension éditoriale qui était hyper forte. Et moi, à tel point qu'aujourd'hui, j'ai du mal à partir sur une course, que ce soit une traversée de l'Atlantique ou un tour du monde, sans cette volonté de partager finalement la magie de ce qu'on vit.
Voilà ce que disait Fabrice Amédéo. On aurait pu citer Yann Kefelec également, qui
évidemment
vient de publier un récit sur Isabelle Autissier.
Sur Florence Artaud.
Sur Florence Artaud, pardon. Ça, c'est un récit, mais il y a beaucoup de beaux livres aussi, Nicolas, sur la mer.
Absolument, beaux livres au sens de la catégorie de librairie, c'est-à-dire grand format avec des photos superbes, parce qu'évidemment, l'océan, c'est aussi un incroyable spectacle, comme dans Légende du Vent des Globes de Philippe Joubin, préface de Michel Desjoyeaux chez Albin Michel. C'est pour les fans du Tour du Monde en solitaire. Rien que la couverture, au premier plan, le bastingage d'un bateau et derrière, une montagne.
Oui, mais une montagne d'eau.
Exactement,
hein.
Une vague gigantesque qui nous rappelle que nous sommes tout petits face aux éléments. C'est un abécédaire avec des photos très belles et très précises, parfois en double page. Ça va de Albatros à Ushuaïa en passant par Naufrage, ou Kerguelen ou 40e rugissant. Pour le Vendée Globe, il y a aussi Mon Vendée Globe dans les coulisses d'une course de légende aux éditions François Bourin, signé Denis Auraud. Intéressant puisqu'il était directeur de course pendant 4 éditions. Il raconte les coulisses du mythe. Où il y a le livre de Loïc Perron, indispensable, le dictionnaire amoureux de la voile. Mais il y en a des dizaines, je vous ai donné là que la partie émergée de l'iceberg.
Voilà, merci beaucoup pour toutes ces belles idées, Nicolas Caro. Vous parliez du Vendée Globe, et bien à l'approche du Cap Horn, Yannick Bestaven est toujours en tête, devant Charlie Dalin. Derrière, pas moins de 8 skippers se tiennent toujours dans un mouchoir de poche.
Et nous ne quitterons pas d'ailleurs le domaine de la mer, puisque notre invité à 7h40 est un des grands spécialistes de la mer. Il est même intarissable sur cette question. Christian Bûcher sera avec nous pour son tête-à-tête. Merci Hélène pour ce tour complet de l'actualité. Le prochain journal à 7h30 avec Yasmina Katou.